ma série de prédications et nous sommes dans l'épître de Paul aux Corinthiens, pour ceux qui veulent suivre. Paul aux Corinthiens, la première, toujours chapitre 1. Je vous rappelle vite fait ce dont il était question. Donc, dans cette église, Paul s'est confronté à des chrétiens qui se revendiquent de divers camps. Moi, je suis de l'école de Paul. Moi, je suis de l'école de Apollos. Et moi, je suis de l'école de Pierre. Et pour Paul, c'était très triste d'entendre ces chrétiens qui se divisent. Au lieu de dire, je suis un disciple de Jésus, ils disent, moi, je suis le disciple du disciple, du disciple de celui qui suit Jésus, quelque part. Et de voir cette division dans l'Église. Et son argument, c'est de dire, au final, mais c'est pas, ça devrait pas être des discours, des enseignements plus ou moins évolués, complexes, qui vous auraient impressionné, qui devraient faire que vous soyez disciple de ceci ou disciple de cela. Il dit, et je relis pour ça le verset 17, on va lire après à partir de 18. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, et cela sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir la mort de Christ sur la croix. Quelque part, si Paul était allé annoncer Jésus avec des tas d'arguments très intellectuels, on passe à côté de la vraie puissance de la mort du Christ sur la croix. Alors je relis la suite qu'on avait déjà lue il y a deux semaines, et on va s'arrêter à la fin du chapitre 1. Avant de lire la parole, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je lis tes écritures saintes, inspirées par tes prophètes et tes apôtres. Elles sont une nourriture pour nous, grâce à toi, qui nous nourrit l'âme, nous ouvre les yeux et nous attire vers toi. Amen. En effet, proclamer la mort du Christ sur la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous, qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Voici ce que l'Écriture déclare. « Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. » Alors, où est le sage? Où est le spécialiste des Écritures? Où est le brillant orateur du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse du monde est insensée. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette proclamation folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve des signes extraordinaires, les Grecs recherchent de la sagesse, mais nous, nous proclamons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour ceux qui ne le sont pas. Mais pour nous, pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que non, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la folie humaine. Et la faiblesse apparente de Dieu est plus supérieure à la force humaine. Considérez, frères et sœurs, qui vous êtes, vous, que Dieu a appelé. Il n'y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de personnes de nobles origines, au contraire. Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable, ou qui ne vaut rien aux yeux du monde, pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut faire le fier devant Dieu, mais Dieu vous a uni à Jésus-Christ, et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu, et qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclarent les Écritures, si quelqu'un veut faire le fier, eh bien, qu'il mette sa fierté dans ce que le Seigneur a fait. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Encore une fois, il s'agit du grand thème du bouleversement, du renversement des valeurs que Dieu va opérer. Je relis ce verset 21 qui est très important, un peu la clé là. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu se révèle, se montre, se rend connaissable dans la réalité de ce monde. Mais que nos grands sages, nos grands penseurs, nos grands techniciens, nos grands savants, nos grands érudits, nos grands chercheurs, pas que du 21e siècle, ni pas que du 20e siècle, puisque déjà à l'époque de Jésus, enfin de Paul, c'était le cas, les grands savants de l'époque, quand ils scrutent le monde, quand ils observent le cosmos, la réalité, ou quand ils passent du temps à réfléchir, ne tombent pas tous, loin de là, sur la conclusion « Dieu existe et il est là ». Au contraire, il semblerait qu'ils évitent de parvenir à cette conclusion. Donc Dieu a donné la sagesse aux humains. Dieu a donné la sagesse aux humains. On a dans notre histoire des figures d'hommes et de femmes de grande, grande sagesse, de grande perspicacité, de grand savoir. Mais on ne peut pas faire le lien entre la grande sagesse de certains penseurs, de certaines chercheuses, et le fait que, ils croient en Dieu. Il n'y a pas de lien entre les deux. On peut être très érudit, très instruit, très savant, et ne pas trouver Dieu du tout, ne pas chercher Dieu du tout, en fait. Alors, Paul nous dit, c'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette proclamation folle de la croix. Dieu a fait exprès. Croire, me connaître, me rencontrer, ce ne sera pas quelque chose qui sera réservé aux érudits, aux sachants, aux grands connaisseurs. Me rencontrer, me connaître, ce sera une expérience tellement dingue. Et en fait, tous y auront accès. Tous. Du plus petit, du plus modeste, du plus humble, du plus simple des êtres humains jusqu'au plus grand. Ça lui a plu à Dieu de faire ça. Normalement, dans un monde bien fait, selon Dieu, Dieu il aime que les sages instruisent ceux qui ne le sont pas. Il aime que les forts se mettent au service de ceux qui ne le sont pas. Hein ? Il aime que les riches pourvoient aux besoins de ceux qui n'ont rien. Il aime cette interdépendance où ceux qui ont reçu de lui partagent ce qu'ils ont reçu avec ceux qui n'ont pas reçu. De la même manière, nous qui avons connu le Seigneur, il aime que nous parlions du Seigneur autour de nous. Mais quand ceux qui ont la sagesse et la connaissance et le savoir et la force ne cherchent pas Dieu, que va-t-il arriver à ceux qui ne sont ni sachants ni forts? Comment le trouveront-ils? Ben, Dieu se plaît à ce que, malgré tout, les faibles et les pauvres et les ignorants rencontrent le Seigneur. Il court-circuite la sagesse des sages et la force des forts. Et ça lui plaît. Alors, qui étaient les sages et les forts à l'époque de Paul? Eh bien, Paul catégorise un peu le monde en deux. Il y a ceux qui connaissaient Dieu, les Juifs, et qui, eux, veulent des signes, des miracles pour être sûrs que c'est bien Dieu qu'ils rencontrent. Les Grecs recherchent la sagesse. Et nous, dit-il, nous proclamons la croix, Jésus-Christ crucifié. Alors, dire que le Fils de Dieu est mort sur la croix pour les Juifs, c'est absolument inaudible. On ne peut pas entendre ce message. Déjà que Dieu est un Fils, c'est pas supportable. Alors, vous voulez nous faire croire que nous l'avons mis à mort sur la croix. C'est absolument scandaleux. Et pour les Grecs, l'idée d'un Dieu qui s'incarne, l'idée d'un Dieu qui prend chair, sans mauvais jeu de mots, l'idée d'un Dieu qui s'abaisse, irrecevable. Irrecevable. Mais pour nous, pour vous, si vous avez été touché par l'Esprit de Dieu, si je vous dis que le Dieu créateur du monde s'abaisse jusqu'à prendre chair et à offrir sa vie sur la croix, est-ce que vous êtes scandalisé ou émerveillé? Pour nous qui avons reçu l'Esprit, quand on entend ça, il y a quelque chose quand même de merveilleux. Pour nous, de contempler Jésus en se disant, nous qui luttons avec notre péché, hein, enfin moi oui, peut-être pas tous parmi vous, mais moi je lutte avec mon péché, et de voir Jésus subir tous ces outrages, toute cette violence, toute cette injustice, toute cette humiliation qu'il n'aurait pas dû recevoir, pour finir par mourir sur la croix et me dire à aucun moment il a pensé des personnes qui l'entouraient et qui lui faisaient ça du mal. Hein? Il a dit, si tu traites dans ton cœur, si tu traites ton frère ou ta sœur de vaurien, tu as péché. Enfin, alors même qu'il subissait toute cette passion, ce chemin de croix, qu'il était fouetté, humilié, insulté, qu'on lui crachait dessus, il n'a pas un seul moment cédé au mal à l'intérieur de lui. Ben, quand on me raconte ça, je me dis, mais quelle puissance! Mais c'est pas la puissance que le monde cherche. Nous, on ne cherche pas cette puissance. Nous, on veut être invulnérables. On veut que nos adversaires ne puissent pas nous faire de mal. N'est-ce pas? On veut qu'ils ne puissent pas nous atteindre. On veut ne pas souffrir. Jésus, la puissance qu'il a reçue, c'est pas celle de ne pas souffrir, vous le savez. Hein. Il a souffert. La puissance qu'il a reçue, c'est d'être non pas invulnérable, mais d'être incorruptible. Incorruptible. Vous pouvez lui faire ce que vous voulez, à aucun moment ça le fera basculer dans l'autre camp. À aucun moment il va penser une insulte envers vous, quoi que vous lui fassiez. À aucun moment il va vous souhaiter du mal. J'en suis pas là. Je sais pas vous. Il est incorruptible. Quelle puissance je veux ? Quelle puissance j'admire ? Quelle puissance j'admire ? De la même manière, la sagesse de Jésus nous va droit au cœur. La sagesse de Jésus n'est pas cachée, elle n'est pas réservée aux plus grands. La sagesse de Jésus, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. La sagesse de Jésus nous remplit d'espérance. Vous connaissez les béatitudes, le serment sur la montagne, tant le trop joue. J'ai envie de dire, la sagesse de Jésus, elle met tout le monde d'accord, parce que soit tout le monde comprend, soit personne comprend. Même les plus sages. Quand Jésus lui dit tant l'autre joue, à celui qui te frappe sur une joue, qu'on soit érudit ou pas érudit, qu'on ait fait des études ou qu'on n'ait pas fait des études, on est interdit, stupéfait. Quand il dit que l'ouvrier de la dernière heure aura le même salaire que l'ouvrier de la première heure, on est tous là. C'est pas juste qu'on ait fait des hautes études ou pas. La sagesse de Jésus nous met tous d'accord, tous au même rang. Elle nous déroute, nous désarçonne, nous fauche les pieds. Mais quand on essaye de se mettre à son école, elle nous ouvre à un nouveau monde, nouvelle compréhension des choses, nouvelle façon de penser qu'est-ce qui est important. Un salaire qui me permet, qui reconnaît mon mérite, qui me finance le nombre d'heures que j'ai travaillé, ou un salaire qui me permet de rentrer chez moi avec assez pour nourrir ma famille. Et vous alors ? Paul semble dire qu'à l'époque où il écrivait à cette église de Corinthe, l'église de Corinthe n'était pas peuplée d'érudits, de sages, de philosophes, de penseurs, mais plutôt de gens simples, issus du peuple, sans qualification particulière. Et c'est vous que Dieu a choisi. Les choses simples, faibles, celles dont le monde ne fait pas grand cas, pour aller proclamer son royaume. Souvent on se dit, non mais pour annoncer l'évangile, non, il faut avoir fait un petit peu de théologie quand même, il faut connaître la doctrine, il faut avoir une formation. Non. Pour annoncer l'évangile, il faut une chose et une seule. Il faut connaître Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus ? Et je fais ce signe-là dans mon cœur pour dire que c'est là que ça se passe. C'est pas là. Nos écritures saintes sont importantes. On est des protestants. On le met. Ah, il n'est pas là. Là, on met la Bible vraiment au centre, le cœur de notre culte, c'est la proclamation de la parole. Amen. Mais annoncer l'évangile, il s'agit pas de connaître ça, il s'agit de connaître Jésus là. Est-ce que Jésus fait partie de votre vie? Nathalie nous a proclamé des promesses à l'ouverture de ce culte. Si je suis dans les ténèbres, il est ma lumière. Si je suis faible, il est mon réconfort. Si je me sens écrasé par mon péché, il est mon pardon. Toutes ces choses-là, ces promesses-là, nous sommes appelés à les vivre, à les goûter, à les expérimenter dans notre vie. Si vous avez une chose à annoncer à qui que ce soit, c'est ça. C'est ça. Je vous avais raconté comme un ami m'avait emmené faire de l'évangélisation dans les rues de Nîmes, devant, sur le parvis de la gare. Et on avait abordé un SDF, commencé à lui proposer un petit évangile de Luc, histoire d'ouvrir le dialogue. Et puis on discute, et puis il s'avère qu'il était plutôt musulman, ce SDF. Et à un moment, je commence à débattre avec lui de la nature de Christ. Était-il divin ou était-il prophète? Et mon ami me voit commencer à débattre. Et doucement, il récupère la conversation. Il salue chaleureusement le SDF et il m'emmène plus loin. Il me dit, tu as perdu. Je lui dis, quoi? Il me dit, tu as perdu, tu es tombé dans l'arène. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, là tu étais en train de débattre avec lui pour savoir qui de vous deux avait raison. Lui ou toi? T'étais plus en train d'annoncer Jésus. C'est fini. Je dis, mais il m'a dit, tu proposes de rencontrer Jésus-Christ, celui qui vit en toi. Oui, ils le veulent. Non, ils le veulent pas. Mais s'ils le veulent pas, tu peux rien faire. Mais s'ils le veulent, tu pries avec eux. Tu mets ta main sur leur épaule et tu pries que ce Jésus qui est en toi, il soit aussi en eux. C'est pas très compliqué, hein. C'est pas compliqué, en fait, hein. Il s'agit pas de débattre. Il s'agit pas de convaincre. Il s'agit même pas de prouver. Il s'agit d'offrir ce que vous-même vous avez reçu. Il s'agit d'offrir ce que vous-même. Alors, pour illustrer ça, j'avais envie de me mettre, je suis arrivé très en retard ce matin, mais j'avais réfléchi comment est-ce que je pourrais leur montrer qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et je m'étais dit, tiens, je vais me mettre à l'entrée de l'église avec un gros pot de sucre en poudre et une cuillère. Et de vous dire, est-ce que vous voulez une cuillère de sucre en poudre? On aime le sucre. Moi, j'aime le sucre. Mais là, à l'entrée du culte, prendre une cuillère de sucre en poudre dans la bouche, non. Hein? D'accord? Mais de la même manière, l'évangile, c'est une cuillère de sucre en poudre. Mais ça veut pas dire que chaque moment est bon pour en prendre une. Et cet ami m'avait appris un peu à écouter l'histoire des gens. C'est vachement intriguant de voir comment, si on leur propose un Nouveau Testament ou un petit fascicule de l'évangile de Luc, ça branche la conversation sur le spirituel. Une fois qu'on a fait ça, on laisse dérouler et les gens, assez fréquemment, nous parlent de leur vie. Et là, il faut écouter. Où est-ce qu'il faut mettre un peu de sucre? Où est-ce qu'ils ont besoin de recevoir Christ? Il ne faut pas le balancer pour le balancer, pour faire mon travail. Après, c'est plus mon problème. Écoutez l'histoire. Reprendre l'image de Nathalie, là où il y a ceci, il apporte cela. Là où il y a de l'injustice, il apporte de la justice. Là où il y a des ténèbres, il apporte la lumière. Là où il y a de la solitude, il apporte sa présence. Là où il y a du désespoir, il apporte une espérance. Qu'est-ce que Jésus est venu apporter dans votre vie? Qu'est-ce que Jésus est venu et qu'est-ce qu'il apporte encore aujourd'hui? Et nous, les choses faibles, les choses folles, les choses sans considération de ce monde, nous sommes les porteurs du salut. Rien de moins. C'est vous, c'est moi. Pas besoin de faire des grandes études. Pas besoin d'avoir une formation théologique doctrinale. J'en sais rien. Il suffit de le connaître. Vraiment. Et d'être disponible, disposé à l'apporter à celles et ceux que le Seigneur mettra sur notre route. Amen.